France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
Malgré une prise de conscience et les interventions des politiques, des médias qui traitent de plus en plus le sujet, la journée mondiale de lutte contre le harcèlement scolaire et patati patata, les cas continuent d'augmenter inexorablement. L'hypnose peut aider les enfants victimes de harcèlement à retrouver une estime d'eux-mêmes et permet aussi de mieux se protéger dans ce genre de situation, d'exprimer des émotions retenues par peur, de libérer la parole. On va en parler aujourd'hui, mais on attend aussi vos témoignages ou vos questions sur le sujet, le harcèlement scolaire, si vous avez été confronté à ce genre de situation. Et si vous vous sentez désarmé pour venir en aide à vos proches, 03 88 25 15 15, n'hésitez pas à venir nous raconter ici. Et notre spécialiste, Roselyne Wagner, hypnothérapeute, viendra vous apporter de précieux conseils. Maxime Lillinger, lui, se penche vers les journées des métiers d'art, en prenant la direction de Mundelsheim pour rencontrer un ébéniste d'art, et ça va envoyer du bois. Bonjour Maxime.
Bonjour François, ouais, bien dit, du beau bois, du très beau bois. Là je suis chez un maître, un artisan qui dépasse la stratosphère, dont on peut être fier. C'est Christian Deichmann, où je suis à Mundelsheim ce matin. Je suis dans son atelier avec son fils et on va travailler ensemble, on va découvrir plusieurs corps de métier. Avec nous jusqu'à 11h, on va parler ébénisterie, ça c'est certain, mais on va parler aussi marqueterie, sculpture, un petit peu dorure, tout le processus pour fabriquer des meubles anciens. Et là justement on est en train de travailler même tout simplement un hôtel d'une église, et il y en a pour quasiment 1000 heures de travail, et c'est ce qu'on va vous présenter ce matin.
Eh ben dites donc Maxime, tout un programme, parce que l'ébénisterie c'est tout un art. On vous attend aussi pour vos questions sur le harcèlement scolaire et les solutions que l'hypnose peut apporter comme soutien quand on est confronté à ce genre de situation. 03 88 25 15 15, venez nous raconter votre histoire, car nous restons toujours plus à votre écoute jusqu'à 10h sur France Bleu Alsace.
France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute. François Pingano, France Bleu Alsace, à votre écoute.
Maxime Lillinger, qui, dans le cadre de sa reconversion, n'est-ce pas professionnelle, a décidé de nous parler d'ébénisterie d'art. Direction Le Chevalet, spécialisé dans la fabrication, la restauration de mobilier, la création de meubles contemporains. Maxime Lillinger, toujours curieux de vouloir découvrir ces métiers différents, à l'occasion des journées des métiers d'art, va nous ouvrir les portes en bois de cet atelier à Mundelsheim. Rebonjour Maxime.
Rebonjour François. Oui, alors je vous le dis, c'est la dernière fois que vous m'entendez sur France Bleu Alsace. Qu'on soit bien d'accord, à partir de ce matin, moi je reste chez Christian et je ne pars plus, je deviens ébéniste. Voilà, c'est dit, c'est fait,
pam. Super, bam. Bravo.
Parce qu'on est bien, c'est un atelier, je suis dans un corps de ferme à Mundelsheim, et dans ce corps de ferme, il y a l'atelier de Christian où il y a les différents corps de métier. Je pousse la porte et là, eh ben, c'est une traversée dans le temps. On est vraiment, là il n'y a pas d'ordinateur, c'est de la main, c'est du bois, ça sent le bois. Et puis on est bien parce qu'il y a un super sourire à l'accueil, c'est celui de Christian. Christian Deichmann, salut Christian.
Bonjour Maxime, tu vas bien?
Ouais, je suis ravi d'être là vraiment ce matin, ça me fait vraiment plaisir parce que chez toi, on retrouve déjà, on va parler hein, de ce qu'est un métier d'art, mais on retrouve différents corps de métier et notamment déjà celui d'ébéniste. C'est ton métier. C'est quoi l'ébéniste?
Bah, l'ébéniste, on prend la chronologie normale, un ébéniste, c'est un métier qui fait des meubles. Ouais. Donc on part, c'est pour ça ébène, bois d'ébène.
Ok, voilà. D'accord, ouais.
Et donc les menuisiers, c'est plutôt de l'aménagement intérieur, et nous on est plutôt dans l'art. Donc vous avez ébénistes qui font un peu du placard, des trucs comme ça, mais nous on est vraiment dans l'art. Donc on travaille beaucoup en monuments historiques, on travaille pour des particuliers, on travaille pour les ambassades, on travaille pour les consulats, on travaille pour toutes sortes de personnes. Et c'est toujours des mobiliers extrêmement compliqués et qui font vraiment de l'art.
Ah là, on en a déjà un modèle sous les yeux. On est en train de travailler sur un hôtel. Alors là, pas l'hôtel avec des chambres et tout ça. Là, on parle de l'hôtel dans une église. C'est un gigantesque travail. C'est quoi ce projet sur lequel tu es en train de travailler là?
Alors là, on a eu de la chance. C'est un projet qu'on a eu par l'église d'Anzelin, qui est à côté de Metz. Et on est parmi les derniers en France à savoir travailler sur ce genre d'hôtel. Donc c'est un hôtel baroque qui est complètement cintré en plan d'élévation et qui est par l'art sacré. On a des proportions à respecter. Donc ces proportions ont été respectées. Et là, je travaille pour cet hôtel. On est à trois. Donc je travaille avec Marc Fron, le sculpteur, maillot ouvré de France, et avec Stéphane Lider, qui est d'horreur. Donc c'est un projet qu'on a mené ensemble et qu'on va travailler ensemble. Donc le premier, c'est nous, en ébénisterie. Ouais. On va faire tout le meuble, réaliser tout le meuble. Ensuite, c'est Marc qui va intervenir pour faire les sculptures. Et ensuite, on va tout remonter. Et ensuite, ça va passer chez le d'horreur. Et ensuite, livraison.
Et il y a ce côté quand même patrimonial. Quand tu es une entreprise du patrimoine vivant, tu as le titre de maître ébéniste, toi et ton fils, Benjamin. Ça veut dire quoi concrètement par rapport aux autres corps de métier de l'ébénisterie?
On a eu la chance depuis un an, on est entreprise du patrimoine vivant, donc c'est l'excellence du savoir-faire français. français, c'est d'avoir un savoir que les autres n'ont pas. Donc c'est un savoir qu'on a obtenu parce qu'il y a un label d'État, ouais, qui est décerné par le ministère de la Culture. Et on est 1450 entreprises françaises et 23 seulement en Alsace.
Et voilà, classe quand même, hein. Moi je dis la méga classe. Alors on va continuer comme ça jusqu'à 11h. Dans le prochain quart d'heure, on va aller un peu plus en détail sur le côté ébénisterie. Puis petit à petit, on va aller vers la marqueterie, vers la sculpture et tout ça. Et c'est absolument fascinant, j'adore.
Et ben, ça va être passionnant, dis donc, à l'occasion des journées des métiers d'art. C'est cette semaine, donc vous pouvez comme ça aller visiter les ateliers de tous ces artistes qui vous accueillent. Et on en parle avec Maxime Dillinger sur France Bleu Alsace.
France Bleu Alsace, à votre écoute. France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
On estime un enfant sur 10 victime de harcèlement, soit environ 3 par classe. Une étude menée par l'association Marion, la main tendue à l'automne dernier, fait ressortir que 41% des plus de 15 ans ont été victimes de harcèlement et 14% des plus de 15 ans ont des séquelles suite à ce harcèlement scolaire. L'hypnose peut-elle venir en aide à ces victimes? Réponse maintenant avec notre spécialiste du jour, Roselyne Wagner, hypnothérapeute. Bonjour Roselyne.
Bonjour.
Merci d'être à nouveau avec nous pour nous conseiller, nous aider, nous orienter. Alors, ces situations de harcèlement scolaire, c'est vrai qu'on en fait encore plus écho dans la presse, dans les médias. Les politiques aussi prennent la chose en main. Mais ça vient d'où tout ça finalement? Pourquoi? Parce qu'on en parle plus justement, alors du coup on est plus au courant. Qu'est-ce qui se passe?
Alors oui, on en parle plus, donc on est plus au courant, parce que le harcèlement scolaire a toujours existé. C'était des enfants qui étaient chahutés à l'école et on prêtait moins attention à la parole des enfants. Mais le harcèlement scolaire, il a toujours existé. Il se développe aussi d'une manière particulière aussi avec tout le harcèlement en ligne, le cyberharcèlement.
Ouais, ouais.
Et ça fait que le harcèlement ne s'arrête jamais. Ça continue même quand on est chez soi.
Avec des conséquences dramatiques parfois. Attention, on parle de harcèlement scolaire, mais l'adulte non plus n'est pas à l'abri de harcèlement, Roselyne Wagner.
Exactement. Ce qui se passe à l'école est aussi le reflet de ce qui se passe dans la société en général. Et le harcèlement, ça touche chaque âge et tout milieu aussi.
Mais c'est difficile à chaque fois de dire qu'on est victime de harcèlement. Déjà pour la personne en elle-même, d'avouer qu'on est victime. Alors, que ce soit à l'école ou que ce soit dans sa situation professionnelle. Et en professionnel, c'est dur de le faire reconnaître aussi.
C'est très difficile parce que comme pour dans beaucoup de cas, les victimes en fait ont honte d'être victimes, donc vont pas en parler. Et puis il y a encore, même si on en parle de plus en plus, c'est un tabou parce que si on est harcelé, c'est qu'on est faible, donc c'est peut-être quand même un petit peu de ta faute, fallait te défendre. Donc ça aide pas du tout les enfants ni les adultes à en parler, ils ont vraiment besoin d'une oreille à l'écoute et non jugeante.
Et là, super hypnothérapie qui arrive avec sa cape dorée. Mais en quoi? Oui, bon, je fais une petite mise en scène histoire d'alléger un petit peu la chose. Mais l'hypnose, une solution? Et là, je dis, point d'interrogation, Roselyne.
Oui, l'hypnose, une solution, mais pas que la solution.
Ah.
C'est important de combiner plusieurs approches ensemble. L'hypnose, elle va surtout être utile pour retravailler la confiance en soi de ses enfants, parce que quand on est harcelé, la confiance en soi, l'estime de soi, ça en prend un coup terrible. Et on va aussi travailler avec des mises en situation, en milieu sécurisé au sein du cabinet, comment réagir quand on est face à une situation de harcèlement. Parce que, en fait, ce qui fait défaut à la plupart des enfants, et même des adultes, c'est finalement quand on reçoit les premières moqueries, parce que ça commence souvent par des petites choses, mais qui font mal. C'est pas parce que c'est petit que ça passe. C'est comment on réagit pour pas que le cercle vicieux s'installe.
On va en parler, bien sûr, de savoir comment ça se passe tout ça, les séances et compagnie. Et bien sûr, si vous voulez témoigner, hein, raconter votre histoire, peut-être victime vous-même de harcèlement, que ce soit à votre travail, ou alors que votre enfant a été victime de harcèlement scolaire, eh bien, Roselyne Wagner répondra à ces questions au 03 88 25 15 15.
France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute, François Pingano.
On est à Mundelsheim avec Maxime Dillinger pour les Journées Européennes des Métiers d'Art qui se déroulent toute la semaine, direction l'ébénisterie d'art, le Chevalet, Maxime Dillinger.
Oui, chez Christian Deichmann, où on parle ébénisterie tout de suite, parce qu'il y a plusieurs corps de métier ici, il y a aussi des sculpteurs, il y a aussi, on verra un peu plus tard, un doreur, il y a des marketeurs, mais là on s'intéresse à l'ébénisterie. Alors, on est dans un monde d'art. On a une pièce de bois qui va devenir on va dire le pied de l'hôtel, si je me trompe pas, le pied, c'est un pied.
Exactement.
Voilà,
oui, le pied de l'hôtel, ouais.
On fait comment pour transformer une pièce de bois brute en pied d'un autel d'église. C'est quoi la première étape?
Ben, la première étape, on prend du bois brut, donc du bois qu'on a acheté en Syrie, qu'on a acheté nous-mêmes, et ensuite ben, on le dégauchit, on le rabote, et une fois qu'il est dégauché et raboté, on le colle.
Parce
Dégauchisser, on va le dégauchir, ça veut dire l'aplanir, pour le rendre plane, droit.
D'accord.
Et ensuite, vu que le pied, c'est une grosse section, on n'a pas de section aussi grosse, parce que le pied, c'est pas possible. Donc on travaille sur une section de... Après là, on était entre 250 mm un carré. Et donc on fait des collages, quatre collages, pour pouvoir avoir une structure où le pied ne travaille pas. Donc on le colle ensemble. Et ensuite, là c'est la partie la plus délicate, on va commencer à faire le cintre, puisque le pied il est cintré en plan d'élévation.
Alors le cintre, c'est cette partie-là. Donc là on a toujours notre bloc. Pour vous donner une idée visuelle, on a l'impression qu'en fait le pied va être comme s'il avait été manipulé, comme s'il avait été tordu, sauf qu'en fait non, il a été dégrossi au fur et à mesure pour donner cet effet courbé. Ce que tu appelles cintré, c'est quoi? Je l'ai dans la main, tu vas faire le petit bruit. Caroline Paul. Hop. Et là, on a. Donc, cintrer, c'est quoi? C'est l'art de faire une courbe, c'est ça?
Voilà, c'est ça. En fin de compte, quand on prend la pièce de bois, quand tu la prends comme ça.
Ouais, en face, comme
en
ça.
En face, comme ça, tu la tournes dans tous les sens, il n'y a rien qui est droit.
Tout est tordu.
Voilà. Ça n'a pas été courbé en, disons, en chauffant ou quoi que ce soit, c'est dans la masse. Donc, donc là, pour le trouver ça, c'est des calculs. Ouais. Et ensuite, il faut vraiment une dextérité incroyable parce que bon, on le voit bien là, c'est la même épaisseur de tous les côtés, quoi qu'on fasse.
Je sais pas comment t'arrives à faire un truc pareil sans informatique. L'étape d'après, c'est parce qu'il faut qu'on en parle aussi, c'est qu'on a aussi ces outils. Donc ça, celui-ci, c'est quoi?
Ça, c'est un ciseau à bois, c'est notre outil principal, un ciseau à bois émaillé.
Et tu vas graver comme sur de la pierre? Tu vas l'utiliser un peu comme le tailleur de pierre?
Ouais, disons que ça, c'est pour les assemblages. Ensuite, quand on veut faire un peu de sculpture, on a d'autres outils, hein, c'est des bédanes et tout ça. Mais là, sur ce meuble-là, d'abord au départ, quand on fait ça, il y a d'abord le cintre. Ensuite, quand le cintre est réalisé, il y a tous les éléments décoratifs qui vont se rajouter. Donc nous, en ébénisterie, c'est toutes les moulures. Par exemple, sur le cintre là, sur le pied, qui est, on le voit bien, Maxime, il est arrondi sur les côtés. Et donc, comme il est arrondi, en même temps, c'est pas seulement l'arrondi, mais en même temps, on fait une élégie. Ça veut dire qu'on creuse à l'intérieur de l'arrondi avec des petites moulures. Donc on voit très bien les petites moulures qui apparaissent.
Alors, autant vous dire, il faut être quand même relativement bon en calcul et en géométrie, d'avoir une certaine logique, parce que moi, il y a des choses, là, on parlait de concave et de convexe tout à l'heure, où j'étais un peu largué. Mais j'espère que ça a été clair pour vous. C'est un peu plus clair maintenant, le métier d'ébéniste?
Ouais, c'est surtout, il nous manque les odeurs, parce que l'odeur du bois...
Ah, les odeurs,
ah, bah oui. Ça doit le faire.
Vous aurez les images quand même, tout à l'heure, sur Facebook.
Oui, mais toujours pas les odeurs. Non, je plaisante. Bon, on vous retrouve dans quelques instants, bien sûr, dans ce bel atelier d'ébénisterie d'art, le Chevalet. C'est à Mundelsheim, Maxime Dillinger, à l'occasion des journées des métiers d'art, toute cette semaine en Alsace.
France Bleu Alsace, à votre écoute.
L'hypnose pour aider en cas de harcèlement scolaire, harcèlement aussi au travail, mais le harcèlement scolaire aussi en particulier. On doit se protéger, bien sûr, de ce harcèlement afin d'éviter d'en arriver à des situations dramatiques. Pour bien traiter, il faut comprendre quels sont ces symptômes psychologiques du harcèlement. Roselyne Wagner, hypnothérapeute, vous êtes là pour nous répondre à ces questions. C'est quoi ces symptômes qu'on n'arrive pas forcément, nous, parents, à repérer?
Alors, le premier symptôme qu'un parent va pouvoir repérer, c'est un changement de comportement de son enfant.
Mmh.
Un enfant qui va être plus réactif aux émotions, qui va pleurer plus facilement, qui va se mettre plus en colère, irritable, des notes qui peuvent aussi chuter. Le classique mal de ventre, la veille de la reprise, après les vacances, après le week-end, j'ai pas envie d'aller à l'école ou petites choses comme ça.
Parce que je dis la passerelle est mince hein, pour savoir vraiment exactement si notre enfant est victime de harcèlement ou si c'est tout simplement il a autre chose quoi dans sa tête.
Oui, et je pense qu'on peut aussi clairement poser la question si
à l'enfant.
À l'enfant, bien sûr.
Le dialogue.
Ouvrir complètement le dialogue, parce que comme je disais tout à l'heure, un enfant qui est harcelé, il va dans 99,9% des cas avoir honte, donc il va pas oser en parler. Mmh. Il peut même avoir l'impression de décevoir ses parents en étant dans cette situation. Et je pense que c'est important que les parents se montrent complètement à l'écoute et complètement non jugeants. Et quoi de mieux qu'en ouvrant clairement le dialogue pour montrer qu'on écoute.
C'est l'empathie.
Exactement.
Comment se déroule une séance d'hypnose justement quand on a ce genre de situation?
Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps déjà, c'est permettre à l'enfant de parler, de raconter ce qu'il a envie. Et j'insiste bien sur ce qu'il a envie. Des fois, on n'a pas envie de raconter.
Est-ce que les parents doivent être là ou alors c'est sans les parents?
Alors, Personnellement, je commence toujours un début de séance ensemble avec les parents, rien que pour faire connaissance, parce qu'un enfant, c'est pas un paquet qu'on dépose chez le thérapeute.
Donc, je viens le récupérer à 17h. Hein.
D'accord. Voilà. Donc c'est bien quand même de prendre ce temps ensemble pour que chacun puisse être en confiance, aussi bien parents, parce que quand on est parent et qu'on confie son enfant à un thérapeute, on a un petit peu envie de savoir où est-ce qu'on le dépose. Et puis ensuite, si le parent et l'enfant sont d'accord, je reste juste avec l'enfant pour aussi lui permettre d'avoir cette sphère juste à lui et justement de pas craindre de décevoir ou de pouvoir être libre de parler sans son parent à côté.
Bon, on a l'image hein, de l'hypnose, mais là, l'hypnose que vous pratiquez, ça se passe comment alors exactement ? On peut avoir les secrets, Roselyne.
Les secrets, ça va être un petit peu court hein, sur,
ah ouais, je
sur,
sais,
ce,
ouais.
sur ce créneau. Mais les secrets, ça va être de permettre à l'enfant de pouvoir se sentir déjà en confiance avec moi. Et puis, on va être très dans le jeu et dans l'échange avec les enfants. Je vais pas le faire asseoir sur un fauteuil en disant chut. Dors, écoute-moi, parce que franchement, il s'ennuierait, et moi aussi. Donc c'est quelque chose de très actif, interactif, ludique, pour que l'enfant, il soit aussi, et l'ado, pleinement acteur de son changement, en fait.
D'accord, c'est assez surprenant, parce que c'est pas ce qu'on attend, finalement, ce qu'on entend
évoquer. C'est pas ce qu'on imagine,
voilà,
mais exactement. Autant avec les enfants, eux, même avec les adultes, si on met un petit peu de vie dans les séances, c'est chouette pour tout le monde.
Plusieurs séances nécessaires, j'imagine ?
Oui, c'est très rare qu'on voit, quel que soit le sujet d'ailleurs, hein, l'enfant, l'adulte, une seule fois. Rien que parce que la première fois, il y a aussi besoin de temps pour se connaître et se faire confiance. Donc, mais en quelques séances, les enfants, globalement, je les vois à peu près 4 fois, on va dire, pour qu'ils puissent se sentir en confiance et qu'ils sachent réagir.
C'est une moyenne, hein, bien sûr.
C'est une moyenne.
Parce que des fois, ça peut être plus long.
Oui.
Plus court, ça m'étonnerait parce que c'est la...
Ça peut, 4 c'est une moyenne, on peut être à 3 des fois,
ouais,
ou 2.
Oui.
Mais 2 c'est rare, 3-4 c'est bien.
Voilà. L'hypnose pour tenter de trouver, surtout de pas trouver des solutions contre le harcèlement, parce que ça, de toute façon, c'est ça fait partie d'une autre chose, mais l'hypnose pour aider l'enfant à se confier, justement, à faire en sorte qu'il aille mieux et reprendre cette confiance en soi qu'il a perdue à cause de ces situations de harcèlement. Venez témoigner si vous avez vécu cette situation avec votre enfant, 03 88 25 15 15, si vous avez aussi des questions à poser à Roselyne Wagner.
France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
On est ensemble aussi sur France Bleu Alsace pour parler des journées des métiers d'art. À cette occasion, direction Mundolsheim, les ministries d'art. Le Chevalet nous accueille aujourd'hui avec Maxime Dillinger dans l'atelier. Attention à vos doigts, Maxime.
Oh. Oui, parce que là, ça y est, on va passer à la pratique. Alors, je vous présente Benjamin. C'est le fils de Christian, qui lui aussi est un maître ébéniste, mais il va nous parler d'une autre particularité du métier. Salut, Benjamin.
Salut à tous.
Alors Benjamin, il y a autre chose qu'on a vu tout à l'heure. On a parlé des gabarits, on a parlé de travail, de dégrossage, dégraissage. Mais là, maintenant, on va parler moulure. Ça, c'est ce que tu fais là actuellement. Concrètement, avec cet hôtel, l'hôtel de l'église que on a pour projet de réaliser. Là, toi, t'es sur la corniche. On va fabriquer la corniche. C'est quoi la corniche ?
Alors une corniche, c'est ce qu'il y a au-dessus de l'hôtel, donc ça tourne autour en fait de l'hôtel et ça a une forme particulière. Donc cette forme, en fait, on la travaille avec un fer que nous on fabrique. Donc un fer en ferraille quoi qu'on fabrique. Donc on le travaille au préalable. Ensuite, on le met dans une machine qui s'appelle une toupie.
Donc on va juste faire la petite pause sur le fer. Le fer, c'est cette petite pièce de métal que tu as dans la main là qui ressemble on va dire à, je sais pas, on va dire comme un mini couteau hein, pour vous faire une image en métal, mais sauf que ce couteau a une forme très particulière qui, quand elle va tourner, va pouvoir définir la moulure, la forme de la moulure, c'est ça ?
C'est ça, elle va définir la moulure et elle va en soi manger le bois, quoi.
Ouais.
Donc ça va enlever le bois pour lui donner cette forme qu'on a choisi de lui donner, quoi.
Est-ce qu'on est OK pour faire un essai ? Parce que je sais que là, c'est un travail d'œuvre. Est-ce qu'on peut prendre une pièce un pas à la celle de la vraie pour l'hôtel ? Parce qu'il y a du coup beaucoup, on parle de milliers d'heures de travail. Une pièce de bois, juste voir comment tu travailles.
Oui, bien sûr.
OK. On va voir. Et vous allez voir avec les oreilles, ok ? Donc là, il va passer en fait cette pièce de bois dans la machine pour faire la moulure. Et ça va être un travail de précision. Hop ! Donc là, c'est la toupie, hein, c'est ça?
C'est ça, la machine s'appelle la toupie, c'est okay. Ça. Oui.
Donc là, hop, le couteau va passer sur la pièce et... Et hop, et là on a le résultat. Et donc là, nickel. Non, ça va, j'ai encore tous mes doigts. Mais là, donc ça y est, donc cette rainure là qui a été faite, elle était réalisée par la toupie et c'est vrai que waouh, c'est nickel. Donc là, ensuite, on va pouvoir les coller les unes aux autres. Et désolé, je manque de vocabulaire. Les unes aux autres pour qu'on puisse vraiment obtenir finalement la corniche. C'est un métier, hein, le vocabulaire d'ébéniste. Benjamin, là, juste pour le collage ensuite de la corniche, c'est combien de temps?
Alors le collage n'est pas très très long. C'est-à-dire que là, en fait, on va faire des rainures, donc ce qu'on ouais. va faire à la toupie là. On va mettre des languettes dedans et on va assembler tous les éléments ensemble parce qu'on ne peut pas passer toute une pièce en une fois. Donc on le fait en plusieurs parties, plusieurs moulures entre elles et après on les colle sur une presse.
Et c'est ce qui nous donnera cette magnifique corniche qui malheureusement quittera l'Alsace. Mais vous inquiétez pas, il y en a des belles choses à découvrir aussi que uniquement en Alsace grâce à la préservation de ce métier d'art. Oh là là, et on oui. va y arriver. Hein.
Mais c'est le bois, ça, c'est les odeurs de bois, ça vous trouble oui. un petit peu, ça doit être ça. Les journées des métiers d'art, toute cette semaine, bien sûr, dans ces ateliers, nous sommes à l'ébénisterie d'art, le Chevalet, c'est à Mundolsheim. On est ravis, on vous retrouve juste après les infos de 10h sur France Bleu Alsace.
France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
Notre sujet du jour avec Roselyne Wagner, hypnothérapeute, c'est l'hypnose qui nous aide en cas de harcèlement scolaire pour nos enfants, bien sûr. On essaye de déterminer, bien sûr, si on est victime de harcèlement scolaire, du moins nos enfants. On peut être victime aussi de harcèlement professionnel, on l'a évoqué. Alors, on a dit aussi qu'il fallait plusieurs séances, 4 heures en moyenne, bien sûr. Comment dire, Roselyne Wagner, si on va mieux, si notre enfant va mieux?
Alors déjà, c'est l'enfant qui va pouvoir le dire. On parlait de ces symptômes de pas envie d'aller à l'école, de mal de ventre. Bah, du coup, ces symptômes, ils sont plus là. Et les parents, ils s'aperçoivent vite aussi de la différence d'un enfant qui est épanoui, serein quand il faut partir le matin à l'école, même s'il aime pas l'école, ça c'est autre chose. Mais un enfant qui se sent bien, les parents le voient et l'enfant va le dire aussi.
Alors les parents, bien sûr, on dit toujours notre enfant c'est le champion du monde, mais on a tendance aussi à se planter grave quand même, parce qu'on a des façons de parler aussi à nos enfants qui font que ça va pas forcément arranger les choses, hein, Roselyne.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pouvoir s'exprimer de manière ouverte, juste avec empathie. Et je pense que le maître mot, c'est ça, faire preuve d'empathie face à son enfant et ne pas minimiser ce qu'il raconte. S'il raconte une situation où il a manifestement eu du mal, où il a souffert, juste le balayer d'un revers de main en disant « mais c'est pas grave » ou « sois fort » ou « n'y pense pas », bah l'enfant il va pas être trop en confiance pour en parler à ses parents et il va pas se sentir bien.
Alors moi je suis un petit peu l'avocat du diable, hein, tu vois. Est-ce que l'enfant il peut manipuler aussi?
Franchement, dans des cas de harcèlement, ça me paraît peu
probable.
Vous n'avez
pas jamais eu le cas.
J'ai jamais eu le cas. Et quelque part, si l'enfant il manipule, alors faudrait que ça soit un enfant déjà assez grand. Il faut avoir des capacités intellectuelles quand même de réflexion. C'est pas à 5-6 ans qu'on est capable de le faire. Et finalement, on peut se demander aussi pourquoi il fait ça. Si jamais il en avait un enfant qui manipule, et encore une fois, ça reste à prouver, mais il faut creuser qu'est-ce qui le motive derrière. Et ça serait intéressant de voir ce qui motiverait.
Parce qu'il y a des parents qui doivent dire, mais qu'est-ce qu'ils disent, François, il y a n'importe quoi, les enfants qui manipulent. Ah bah, moi je pose les questions, hein, et puis voilà.
Il faut poser les questions.
Et une autre question farfelue cette fois-ci, qui peut paraître farfelue, l'hypnose peut-elle également aider les harceleurs?
Mais oui, les harceleurs, on n'entend pas souvent parler quand il s'agit des prises en charge, et c'est bien dommage, parce que finalement, comme l'enfant dont on parlait qui manipulerait, si l'enfant il en arrive à être dans une situation de harceleur, c'est qu'il y a quelque chose qui a motivé ça chez lui, et on sait que les harceleurs, dans la majorité des cas, c'est qu'ils ont besoin de reprendre du pouvoir sur les autres, sur les situations, de se sentir fort, et dans l'immense majorité des cas, en fait, c'est des enfants ou des ados qui n'ont absolument pas confiance en eux, et donc ils jouent un rôle. Ça peut être des enfants qui ont des problèmes à la maison, des difficultés dans la famille, ou qui se mettent un masque pour finalement avoir une attention, alors je veux pas dire une bonne attention, mais une attention sur eux qui les fait se sentir importants.
Mais c'est compliqué pour des parents de reconnaître que son enfant peut être un harceleur.
Bien sûr que c'est compliqué, parce que ça remet en cause quelque part finalement l'éducation qu'on donne à notre enfant si on s'aperçoit qu'il est parti dans ce schéma-là.
Parce que finalement on se dit c'est notre faute à nous. Et ce qui est le cas d'ailleurs.
De faute, je vais pas parler forcément de faute, mais c'est important d'aller démêler ce qui fait que l'enfant en est arrivé là. Et à partir du moment où, en tant que parent, on est capable de regarder la situation comme ça en face, bah c'est un grand pas pour tout le monde, pour l'enfant, les parents, pour la famille en entier.
Bah alors du coup, les séances sont différentes, j'imagine, que ce soit le harceleur pour le harceler.
Bien sûr. Le harceleur, justement, bah on va aller regarder ce qui l'a mis dans cette situation et travailler sur la raison de cette situation où il a besoin de reprendre ce contrôle et ce pouvoir.
Et jamais être dans le jugement, quoi, c'est ça.
Jamais dans le jugement.
Toujours. Merci beaucoup, Roselyne Wagner, en
avec
tout cas.
Avec plaisir.
Ça a été, on a appris plein de choses avec vous.
Tant mieux.
À vous, bien sûr. Et puis j'espère que l'hypnose apportera des solutions à des parents qui et des enfants surtout, bien sûr. Ouais. Qui sont victimes, et on l'a évoqué, bien sûr, ce sont des sujets qui sont de plus en plus évoqués dans la presse.
Oui.
Et le mieux, c'est toujours d'en parler en famille, déjà, avant de prendre une décision et d'aller voir un spécialiste.
Exactement.
Comme vous, bien sûr.
Roselyne... Le dialogue avant tout.
Le dialogue avant tout. Et bien sûr, on retrouve toutes les informations vous concernant Roselyne Wagner, hypnothérapeute, sur le site francebleu.fr Alsace, rubrique. À votre écoute, à une prochaine fois pour un sujet peut-être un peu plus léger. Hein,
avec plaisir, merci.
Au revoir.
Au revoir.
France Bleu Alsace, à votre écoute.